Ce matin, je nous invite à méditer sur un terme estival. On va rester avec la saison. Je nous invite à méditer sur la lumière. Que cela nous fasse du bien. Surtout la lumière de Jésus. Lui qui est la lumière de Dieu, la lumière du monde. J'espère que nous allons pouvoir nous émerveiller de la lumière de Dieu et apprendre à mieux vivre pleinement dans cette lumière, parce que pour nous, la lumière, c'est la vie. Alors si nous vous voulez bien, lisons dans l'évangile selon Jean ces paroles merveilleuses qui introduisent l'évangile selon Jean. Chapitre 1, à partir du verset 1. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Ce sont des paroles profondes. Ici, Jean, l'évangéliste, nous présente la parole de Dieu qui a créé la vie et la lumière et qui devient un homme. Ça nous rappelle le début de la Bible, le début de la création. Sans doute vous connaissez que dans le premier livre de la Bible, le livre de Genèse, nous lisons que la création commence quand Dieu dit que la lumière soit. Et qu'est-ce qui s'est passé? La lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour. Il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut une soir, il y eut un matin, et ce fut le premier jour de la création. la création commence par la lumière. Et pour nous, nous humains, la lumière du soleil, c'est ça, c'est la vie, n'est-ce pas?
Amen.
La lumière, le soleil éclaire notre monde et il fait vivre notre monde. Il est pour nous aussi une source d'énergie, une source de la vitamine D, si je ne me trompe pas. Et c'est le soleil qui dirige notre vie. On le cherche, surtout les Anglais. Pour trouver du soleil, ils sont prêts à payer cher et voyager loin. Et en cette période de canicule, pour nous, le soleil, c'est un peu trop. Sa lumière dirige notre vie. Mais dans notre passage ce matin, Jean nous parle d'une autre lumière. Il nous parle de la vraie lumière. La lumière de Dieu. La lumière qui donne vie à notre esprit. La lumière qui donne vie à notre âme. Parce que c'est là l'essentiel. Et Jean nous dit ici que la lumière s'est manifestée un homme, une personne. La lumière de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est un homme comme nous tous. Et voilà ce que je nous invite à méditer ce matin. Jésus-Christ, la lumière dans notre vie, si nous le recevons par la foi. Nous allons méditer, réfléchir comment Jésus éclaire notre vie, éclaire les choses pour nous. Et comment, surtout, il nous donne la vie. Alors, on commence par là. On commence par le fait que la lumière, c'est une personne, un homme, comme nous, qui n'ont pas le droit d'aller nous baigner avec les femmes mercredi prochain. C'est un homme ordinaire qui connaît nos expériences. Et à l'époque de Jésus, il y a 2000 ans, en Israël, quand il est venu, il fallait le distinguer, il fallait le reconnaître. Et aujourd'hui aussi, parmi tous les prophètes, parmi tous les soi-disant gourous et soi-disant prophètes, il faut distinguer Jésus, le reconnaître. Verset 5 jusqu'au verset 11, je relis. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Voilà. Il est possible de ne pas distinguer la lumière de Jésus. Il est possible de la rejeter. Là, on voit que quand Jésus était venu en Israël, il fallait un témoin, il fallait un prophète pour aider les gens à le reconnaître, pour dire aux gens, c'est lui. Et cela fut le rôle de Jean-Baptiste. Dans ce passage, nous lisons l'histoire de Jean-Baptiste. Ce n'est pas Jean l'évangéliste qui a rédigé l'évangile, c'était Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert, qui appelait le peuple à se tourner vers Dieu, à se faire baptiser comme signe de repentance, de changement de vie. Et le ministère de Jean-Baptiste avait du succès. Jean rappelait au peuple les prophètes de l'Ancien Testament, et c'était comme un réveil religieux qui se déclenchait. Quand Jean-Baptiste prêchait, les gens avaient leur conscience touchée. Ils comprenaient qu'il fallait changer des choses dans leur vie. C'est pour cela qu'ils étaient venus se faire baptiser. Et surtout, Jean-Baptiste excitait une attente. Car quand les gens répondaient à son appel et qu'ils se faisaient baptiser, Jean-Baptiste leur disait que ce n'était pas lui qu'ils devaient suivre. Jean-Baptiste disait toujours ce n'était pas lui le plus grand. Ce n'était pas lui le sauveur. Plutôt, le sauveur, le Messie, allait apparaître après lui. Mais, malgré ce témoignage, malgré l'excitation, malgré l'attente que Jean-Baptiste suscitait chez les gens, nous lisons ici que quand Jésus a apparu, il fut mal compris, il fut rejeté. Oui, les gens écoutaient Jean-Baptiste. Ils se faisaient baptiser. Ils avaient les consciences éveillées. Ils avaient les attentes excitées. Mais quand Jésus s'est présenté lui-même devant eux, ils n'étaient pas convaincus. Ils restaient aveugles à sa lumière. Malgré le ministère fidèle de Jean-Baptiste, la grande majorité à l'époque ont raté la vraie rencontre avec Jésus. Et la parallèle pour nous aujourd'hui, la parallèle, c'est dans le ministère du prédicateur. Depuis l'époque de Jean-Baptiste, l'appel n'a pas changé. C'est toujours l'appel que Jésus est là. Il est le Sauveur. Il faut que nous nous tournions vers lui. Et nous, prédicateurs, sommes un peu comme Jean-Baptiste. Nous, on est les témoins. Nous rappelons et enseignons ce qui est écrit dans la Bible. Nous avertissons les consciences sur ce qui est bien, sur ce qui est mal. Nous annonçons Jésus. Et ce qui est important, c'est la rencontre avec Jésus. Dans toutes mes paroles, je parle au nom des prédicateurs, dans toutes nos paroles, et au-delà de toutes nos paroles, notre souhait, notre prière, c'est que vous qui écoutez, ressentiez la présence lumineuse de Jésus. Nous voulons que vous écoutiez comme nous voulons écouter nous-mêmes Jésus et le rencontrer, lui. Si nos exhortations vous encouragent, si nos enseignements vous éclairent, si nos avertissements vous touchent, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Il faut une rencontre personnelle avec Jésus. Une reconnaissance personnelle de Jésus. L'essentiel, c'est que vous l'entendiez, c'est que vous l'accueilliez, que vous lui donniez dans votre vie la première place, parce que c'est lui le Sauveur, c'est lui le Seigneur. Et sans lui, on est perdu dans les ombres et les ténèbres. Une petite histoire pour illustrer cela. C'est l'histoire d'une église à Londres. Et cette église était grande, assez grande, et avait un groupe de louanges apparemment super. Mais l'équipe pastorale, le pasteur et les anciens ont pris la décision d'évincer le groupe de louanges. Plus de groupe de louanges. Pourquoi ils ont fait ça? L'équipe pastorale ressentait dans cette église que ça n'allait pas dans l'adoration. Ils ressentaient qu'on avait perdu dans l'assemblée l'adoration de Dieu. Le groupe de louange était le cœur du culte. Le groupe occupait la place centrale. Et c'était cela le problème. Le groupe, les musiciens, les chanteurs occupaient la place qui appartenait à Dieu. Or, la disparition du groupe, c'était un changement radical dans la vie de l'Église. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les gens? Dans les cultes, les gens se mettaient en cercle et ils partageaient spontanément des chants a cappella, des prières, des paroles, des exhortations. Et dans ces partages simples, on ressentait de nouveau la présence de Jésus au milieu du cercle. On ressentait de nouveau que ce moment-là était pour Jésus et avec lui. Et une fois que l'Église avait expérimenté cela, le pasteur et les anciens ont fait revenir le groupe. Dans ce groupe, il y avait le chanteur-compositeur Matt Redman. Si vous vous souvenez, nous chantons ces chants. Et de cette expérience d'adoration simplifiée, d'adoration sans musicien, d'adoration intime, Matt Redman a écrit les paroles que nous chantons parfois. Le chant terminé. Le rideau retombe. Je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui. Je renonce à tous mes faux-semblants pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Une rencontre personnelle avec Jésus, c'est cela l'essentiel. Nous les prédicateurs, vous les musiciens, nous sommes là pour nous conduire dans la présence de Dieu. Mais la rencontre se fait individuellement. Par la foi. Donc ne vous effrayez pas, mes sœurs. On ne va pas suivre ce pasteur. Ce qu'il a fait, c'était pas bon. Et merci de votre implication, votre ministère. C'est cela, la lumière de Jésus, la rencontre avec lui. Et quand nous accueillons la présence de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Je poursuis la lecture, verset 12 là. À tous ceux qui l'ont reçu la lumière, Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Quand Jésus enseignait sur Dieu, quand nous lisons ses enseignements dans les récits de l'Évangile, pour moi, la chose la plus importante que Jésus enseignait, c'est que Dieu est Père. Pensons-y, c'était révolutionnaire. Personne avant lui ne disait ce que disait Jésus sur Dieu comme Père. Jésus parlait de Dieu comme son Père. Et il apprenait aux disciples ce que c'était connaître Dieu comme Père. Un exemple que nous connaissons tous, un jour Jésus était en train de prier Les disciples le regardaient. Et lorsque Jésus avait fini, les disciples lui avaient fait une demande qui est là. Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean-Baptiste a enseigné ses disciples. Et Jésus a répondu, quand vous priez, dites notre Père. Je ne crois pas que Jean-Baptiste avait dit cela. Personne dans l'Ancien Testament ne s'adressait à Dieu comme Père. Mais là, Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père. La lumière de Jésus donne à celui qui la reçoit le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir par l'Esprit de Jésus. Là, je rappelle ce que Sylvain nous a fait écouter la semaine dernière. La semaine dernière, nous avons lu ensemble, nous avons écouté ensemble le grand chapitre sur l'Esprit Saint dans la lettre de Paul aux Romains chapitre 8. Et dans tout ce passage, nous lisons « Vous, chrétiens, avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Ça, c'est Romains 8, 15 et 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Devenir, ça veut dire que c'est un processus. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance spirituelle. Et l'essence de cette nouvelle naissance, c'est la certitude qu'on est enfant de Dieu. La certitude surtout que cela vient de lui. Parce que c'est le Père et la mère qui donne vie aux enfants, c'est pas le contraire. Dieu nous donne cette nouvelle naissance par Jésus et par l'Esprit. C'est Dieu qui, dans son amour et par sa puissance, fait de nous ses enfants quand nous mettons notre foi en Jésus. Et c'est une transformation, c'est une éducation dans la durée. C'est le développement de la relation avec Dieu le Père. On traverse des expériences, on passe par des épreuves plus ou moins difficiles, des bonnes expériences, de mauvaises expériences. Mais en tout cela, on peut grandir, on peut être formé, on peut être éduqué, transformé. Lorsqu'on vit ces choses avec Dieu le Père. Parce que dans toutes ces expériences, nous apprenons à mieux le connaître, à mieux lui faire confiance et à mieux lui obéir. Je ne sais pas si vous connaissez ces histoires chrétiennes d'enfants par Max Lucado, « Tu es précieux », il y a aussi « Tu m'appartiens ». Ce sont des histoires pour les enfants écrites par l'auteur chrétien Max Lucado. Il y a aussi dans la bibliothèque la version anglaise. Si vous voulez pratiquer votre anglais, il est là. Et ces histoires concernent un petit bonhomme qui s'appelle Punchinello. C'est un petit personnage en bois, un des personnages qui s'appelle les Vémiches. Et les vermiches ont été fabriquées par le sculpteur qui s'appelle Élie. Et puisque ce sont des petits bonhommes, ce sont des petits personnages comme nous, ils font des bêtises comme nous. Et le héros de ces histoires, Punchinello, il souffre des bêtises que se font les vermiches. Et il va voir Élie. Il va voir son créateur. Il va voir le sculpteur. Et c'est le sculpteur qui lui explique des choses. Et il dit à Punchinello, viens me voir chaque jour et je te ferai comprendre combien je t'aime. L'invitation pour Punchinello, c'était d'aller voir le sculpteur chaque jour. Et comme ça, petit à petit, le sculpteur aide Punchinello à déjouer les tours que se font ses compatriotes, les autres vermiches. Et ça, sur un niveau très simple, ça nous montre ce que c'est connaître Dieu comme Père. Nous présenter devant lui chaque jour pour qu'il change les choses dans notre vie, pour qu'il change nos idées, pour qu'il nous fasse comprendre quel est son amour et quelle est sa volonté, pour qu'il éclaire, dissipe le brouillard qui est là dans le monde. La lumière de Jésus, c'est une rencontre spirituelle avec lui. La lumière de Jésus, c'est une relation avec Dieu le Père. Et c'est aussi la réalité de la grâce de Dieu. Verset 14 de notre passage. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Verset 16. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La lumière de Jésus donne à celui et à celle qui la reçoit l'expérience de la grâce et de la vérité. La grâce, c'est l'amour fidèle de Dieu. C'est sa bonté inépuisable. La grâce, c'est ce qui nous tient ferme. Nous chantons parfois le chant « Dieu, ta fidélité, ton immense bonté ». Et le dernier strophe de ce chant, c'est un chant à la grâce de Dieu. « Ta joie et ton pardon en abondance, ta présence en mon cœur, ta chaude voix, ta force à chaque pas, ton espérance, par ta fidélité, tout est à moi ». C'est cela la grâce. Dans notre passage, Jean l'évangéliste nous rappelle que le peuple de Dieu, Israël, était avant sous le régime de la loi de Moïse. Et c'était quoi la loi? La loi, c'était un livre, un code qui révélait la volonté de Dieu. C'était un mécanisme d'action-réaction. Un mécanisme cause et effet. Selon les promesses et les menaces rattachées aux lois. C'était un mécanisme. Mais Jean nous fait comprendre ici que la révélation ultime de Dieu, ce n'est pas la loi, c'est la grâce. Et qu'est-ce qu'elle fait la grâce? L'action de la grâce, c'est la possibilité d'ajuster les mécanismes, de briser les liens entre cause et effet. La grâce, c'est la possibilité d'intervenir pour changer les choses, pour changer la donne, pour changer les personnes. Un exemple très connu dans l'évangile selon Jean, si au moment où Jésus il va partir du sud vers le nord. Et en Israël, pour aller du sud vers le nord, il fallait passer par un territoire plus ou moins ennemi qui s'appelait Samarie. Et à un moment donné, sur le voyage, Jésus, il est fatigué. Il s'assoit à côté d'un puits. Et il demande à une femme qui y puisait de l'eau de lui donner à boire. C'est la femme samaritaine. Et quand Jésus lui demande de lui donner à boire, elle est choquée. Pourquoi? Parce que les Juifs, à l'époque, n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Or Jésus, qu'est-ce qu'il fait là? Il change le code. Il change les règles pour parler avec cette femme et pour lui changer la vie. C'est ça, la grâce. La grâce et la vérité sont en Jésus-Christ. Ça veut dire tout simplement que la grâce, c'est la réalité ultime de Dieu. Un autre exemple. Jésus, sur la croix, il est crucifié. Il fut crucifié entre deux brigands. Et un de ces brigands remarque que Jésus ne mérite pas cette mort-là. Il dit à l'autre, « Nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et ce brigand dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et quelle est la réponse de Jésus? « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Ce brigand, condamné par un tribunal humain, Jésus transforme cette condamnation en promotion. Jésus change la donne pour donner à ce brigand une place avec lui au paradis. C'est ça la grâce, n'est-ce pas? Et Jésus nous montre Dieu. Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils, mais Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, c'est celui qui l'a fait connaître. Nous vivons dans un monde qui manipule, un monde qui bouscule, un monde injuste. Et notre résistance, c'est la grâce, l'expérience de la grâce. Notre résistance vient de la certitude que Dieu ne fait pas comme fait le monde. Avec Dieu, il y a la possibilité de changer les choses, de changer les fatalités. Et autant nous profitons, nous, par la foi de la grâce de Dieu, de sa pardon, de sa joie, pardon, de son pardon. Autant que nous profitons de sa présence en notre cœur, sa chaude voix, sa force à chaque pas, autant que nous profitons de son espérance et sa fidélité, nous devons partager cette grâce, n'est-ce pas? Nous avons le devoir de partager cette grâce dans un monde qui n'y croit plus. Jésus nous l'a dit. Il nous a laissé un exemple. Il a dit cela juste avant sa crucifixion à ses disciples. Je vous ai donné un exemple afin que nous fassions comme lui. Et Jésus nous dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Jean 13, 17. Nous avons le devoir de partager cette grâce. Peut-être vous connaissez un film américain qui s'appelle Un monde meilleur. Un monde meilleur. C'est un film qui date peut-être d'il y a 10 ans. Ça se passe dans une petite ville aux États-Unis et un professeur, et c'est dans, ça commence dans un collège, un professeur de collège donne à ses élèves, à ses élèves au début de l'année, il leur donne comme devoir de penser à quelque chose pour changer le monde, de rêver quelque chose qui changerait le monde, d'inventer quelque chose qui changerait le monde, n'importe quoi. Et un de ses élèves propose l'idée tout simplement de passer le relais. L'idée de ce garçon, c'est de rendre service à trois personnes. Ce doit être des services gratuits, des services importants pour la personne. Quelque chose qui va leur changer la vie. On rend service gratuitement et d'une façon importante à trois personnes. Et en faisant cela, on demande à ces personnes de passer le relais, de faire de même à trois autres. Donc vous voyez la pyramide, vous voyez la multiplication qui se passe quand on passe le relais. On m'a fait du bien, je vais faire du bien à trois autres. Et c'est ce film, c'est une histoire assez émouvante de cette idée qui est mise en pratique. Le garçon, il pratique son idée, il crée une chaîne de solidarité, il crée un mouvement. Ce film raconte la version laïque de la grâce. Mais on voit quand même le besoin de partager la grâce, le besoin que cette réalité de Dieu qui doit vaincre le monde, doit briller dans un monde qui sinon est assez sombre. Et là je conclue. La lumière de Jésus, qu'est-ce que c'est? C'est la rencontre personnelle avec lui. La lumière de Jésus, c'est la relation avec Dieu, le Père. La lumière de Jésus, c'est la réalité de la grâce de Dieu. J'ai dit au début, la lumière, c'est la vie. Alors que l'Esprit de Jésus, quand nous l'accueillons, que l'Esprit... La lumière de Jésus nous donne cette vie et apprenons-nous à vivre pleinement dans la lumière de Jésus. Amen.